T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute Complètement Culte tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût. Get ready for the next
battle. Tu veux qu'on se la donne, dis ? Tu veux qu'on se la donne ?
Entraîner le FC Barcelone n'est pas une chose aisée. Une fois que vous vous installez sur le banc du Camp Nou, vous devez gérer la pression et les attentes. Un club avec le prestige du Barça ne peut se permettre de décevoir les fans, d'autant plus que le club fait souvent appel à des anciennes gloires qui ont joué avec le maillot bleu et pourpre. Alors autant vous dire que la pression est multipliée par deux. Au cours de ces 20 dernières années, les Blaugrana ont connu une flopée de coachs. Certains ont résisté, d'autres n'auront pas fait long feu. Mais deux noms ont définitivement marqué les esprits du côté du FC Barcelone. Pep Guardiola et Luis Enrique. Amis et anciens joueurs du Barça entre 96 et 2001, ces deux noms ont suivi le même parcours en devenant entraîneurs. Présenté en 2008 pour remplacer Frank Rijkaard, l'arrivée de Pep ne s'est pas faite en douceur. Voulant imposer son style de jeu le plus rapidement possible, il va se séparer de cadres importants de l'équipe tels Ronaldinho, Deco et Samuel Eto'o un peu plus tard. Malgré un manque de tact avec ses joueurs, le coach sera l'origine du fameux tiki-taka qui va révolutionner le football. Avec deux ligues des champions et une équipe considérée comme la meilleure de l'histoire, Pep Guardiola a marqué l'histoire du club tout en lançant une nouvelle génération de vainqueurs. Après des passages en demi-teinte du côté de la Roma et du Celta Vigo, Luis Enrique deviendra entraîneur du FC Barcelone en 2014. Dans la lignée de Guardiola en termes de philosophie de jeu, il va continuer sur cette lancée avec un collectif de stars. À l'origine de la MSN, sous son commandement, Luis Enrique est rapidement devenu celui qui a lancé le second âge d'or du club dans la décennie 2010 et remportera la Ligue des Champions en 2015 dans l'art et la manière. Deux amis, deux anciens joueurs du FC Barcelone, deux entraîneurs au style similaire, mais entre les deux, lequel est le meilleur ? Lequel a marqué les esprits ? Lequel est le plus culte? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Donc avant de rentrer dans le versus à proprement parler, c'est quoi votre rapport à ces deux noms?
C'est deux philosophies assez similaires. Hein. On parle de l'innovateur et de celui qui a continué, qui a repris justement la relève de cette idéologie footballistique. Donc deux immenses entraîneurs.
Ouais, non, sur deux entraîneurs de haut niveau. Mais je pense qu'il y en a un qui est quand même au-dessus. Pour moi, c'est Pep Guardiola.
Justement, on va démarrer tout de suite. Hein. C'est lequel que vous préférez entre les deux?
Ouais, je pense que j'ai une petite préférence pour Pep Guardiola au niveau tactique et au niveau de la magie qu'il a proposé. Mais sinon, toujours un grand respect à Luis Enrique, ce qu'il a fait et surtout la Ligue des Champions qu'il nous a apporté. Quoi.
La dernière d'ailleurs.
La dernière, ouais.
10 ans hein, déjà.
Presque. Mal.
Malik.
Moi, j'ai tendance à préférer le maître à l'élève. Et là, c'est totalement le cas.
Ah, tu dirais, toi, que Luis Enrique, c'est l'élève de Pep Guardiola?
On sait que Luis Enrique s'inspire beaucoup de Guardiola.
Ouais, je vois ce qu'il veut dire.
Ils ont beaucoup de similitudes, même si je trouve que dans le jeu peut-être de Luis Enrique, il y a un peu plus de verticalité. On l'a vu avec son PSG l'année passée.
Et il prône un peu plus l'individualité aussi.
Oui, aussi, qu'on a l'impression que Guardiola, c'est son équipe.
C'est dans le collectif.
On sait reconnaître une équipe juste
de Guardiola,
juste en la voyant en train de jouer. Deux immenses entraîneurs, peut-être les deux entraîneurs les plus importants des 20 dernières années au Barça.
Ouais. Je rajouterais quand même Frank Rijkaard, qui a marqué les esprits aussi,
qui a posé un peu les bases, les prémices. Ouais. Surtout la saison 2015 avec Luis Enrique, sa première saison dans un gros club. Il arrive et il montre que c'est un entraîneur de très 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 haut niveau pour gérer un vestiaire comme celui du Barça à l'époque avec la MSN. On a beaucoup parlé, mais de joueurs comme Iniesta, Piqué.
Ouais, des gros noms, il avait des gros noms avec lui.
Il faut savoir les gérer, il a totalement fait.
Alors ils sont à l'origine de deux équipes barcelonaises très conquérantes. Il y a eu 2009-2011 où Pep Guardiola a remporté ces deux années-là la Ligue des Champions. Et il y a eu l'épopée 2015 avec la MSN. On est déjà revenu dessus depuis le début de cette émission. Mais quelle équipe du Barça vous avez préférée entre l'ère Guardiola de 2008-2012 et Luis Enrique de 2014 à 2017? Je pense que la comparaison peut se faire puisque c'est à peu près les mêmes périodes et à peu près également les mêmes palmarès, même si Pep a une Ligue des Champions de plus.
Voilà, peut-être que celui de Guardiola a plus prôné le football, vraiment la collectivité, le tiki-taka, c'est vraiment le précurseur et l'innovateur, comme je l'ai dit. Mais moi, j'ai tendance à préférer le football spectacle individuel. Donc, moi, quand il y avait des Neymar qui faisaient des arcs-en-ciel, quand il y avait des Neymar, des Messi qui. Ouais.
Ah, je pense qu'un arc-en-ciel sous Guardiola, je pense qu'il accepterait pas.
Après, je te rejoins, mais c'était quand même assez spectaculaire du côté de Pep hein, en 2009.
C'est deux spectacles différents.
Voilà, c'était le collectif. Moi, je prends l'individuel. Moi, je viens de Bruxelles. J'ai joué à la Dora, j'ai grandi là-dedans. Donc, moi, quand tu mettais le petit pont-matage, des trucs comme ça, c'est, moi, c'est le football qui me fait vibrer.
Ah, mais je veux dire, quand tu regardes la Jupiler Pro League, tu regardes un match de la Liga, tu fais oh, une virgule. Oh, c'est un truc de fou.
Ouais, c'est ça un peu. Ouais. Voilà. Moi, c'est plus le football qui me touche. Après, bien sûr, en termes de collectivité, c'est Guardiola, c'est dans un autre registre.
Est-ce que c'est Pep Guardiola qui a plus marqué les esprits du FC Barcelone par rapport à Luis Enrique?
Ouais, pour moi, oui.
Pour moi, ouais, aussi. Ouais.
Dans le sens où c'est lui qui a quand même posé les bases d'un style de jeu révolutionnaire dans l'histoire du football.
En fait, il est venu, il a lancé un style de jeu qui était proposé par Cruyff.
Qu'on appelait le football total.
Le football total, ouais, je pense qu'il était déjà impressionnant. Mais sauf qu'à l'époque, je pense que ça jouait en 3-4-3 ou un truc comme ça, un truc du style. Donc lui, il a un peu changé. Mais il est venu avec une maîtrise du ballon qui était vraiment, vraiment impressionnante et dominait le match du début à la fin. Et, c'était
avec un joueur complètement libre aussi. Hein. Tu avais un Messi qui pouvait être en pointe, puis il pouvait se trouver au milieu de terrain pour redemander, pour distribuer. Ouais, donc vraiment maillon libre. Ça aussi, c'est une innovation.
Ça, c'est vraiment très fort ce qu'il a fait avec le faux neuf, le système du faux neuf. C'est dingue.
Et surtout avec des jeunes joueurs, comme je disais, c'est des joueurs à l'époque, des Iniesta, c'est des gens qui n'ont encore rien fait dans le football. Mm-hmm. Et c'est lui qui arrive à dénicher des talents comme Iniesta, comme Busquets, comme Xavi qui était déjà là depuis quelques années sous Rijkaard notamment. C'est lui qui dit dès lorsqu'il arrive, je ne veux plus de Ronaldinho.
Ouais, voilà.
Qui séparé de Ronaldinho, je ne veux plus de Samuel Eto'o.
Là pour le coup, je trouve que c'est un énorme manque de tact et de communication avec les joueurs.
Mais malheureusement, l'histoire
lui a donné raison. Oui, mais quand tu n'es personne et que tu viens t'imposer comme ça avec des stars qui ont des années d'expérience, c'est fou. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a un charisme, il a une importance, il a du respect. Il y a quand même un palmarès. En tout cas, à Barcelone, il avait le respect des supporters.
Oui,
et je trouve qu'il avait une importance dans le collectif. On sous-estime beaucoup trop Samuel Eto'o. Et j'aime bien qu'il y ait un joueur qui vient confronter un entraîneur quand ça va pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit être à l'origine de la perte des cheveux de Pep Guardiola. Il est quand même arrivé. Il avait quand même eu un peu de cheveux. C'était pas la folie, mais ça allait. Je veux dire, à la fin de son épopée avec le FC Barcelone, calvasse quoi. Ouais, mais malgré la calvasse, charisme de dingue. J'ai pas de calvitie. Donc c'est pas la peine.
Samuel Eto'o aussi.
Bah, tu sais, on faisait ça en live, mais on va le faire en podcast. 2 minutes. À l'extérieur du studio. Tu reviendras quand tu te seras calmé, effronté de mes couilles. Alors, on va parler un peu des personnalités de ces deux entraîneurs parce qu'il y en a un qui ne sait pas trop s'entendre avec ses joueurs, même si ça s'est calmé du côté de Manchester City, et Luis Enrique qui arrive à maîtriser les égos. Et pour moi, je vais résumer ces deux styles. Pour moi, Pep Guardiola, c'est la création de stars. Luis Enrique, c'est la gestion des égos, la gestion des stars justement. Parce que quand il arrive au PSG et qu'il dit quand même à Nasser El Khelaïfi « je ne veux pas de Neymar », faut le faire quand même, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, Galtier n'a pas eu les couilles de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est calmé. Guardiola, il sait parler avec ses joueurs. Il va pas aller dire à Kevin De Bruyne « je vais t'apprendre à faire des jongles ». Pour moi, c'est la différence. D'un côté, tu as le créateur de talent et la gestion des égos des stars. Vous en pensez quoi ?
Guardiola, il arrive, il a une certaine manière de gérer son vestiaire.
Qui peut faire débat, qui peut faire polémique et débat. Ça peut passer tout, comme... on l'a vu notamment au Bayern. Bayern, c'est le club où il y a eu le plus de problèmes à s'adapter, même si...
Déjà, Bayern aussi, c'est aussi un club...
Par contre, c'est le grand talent de Guardiola. Il a réussi à imposer son style de jeu partout.
Bien sûr, la mentalité allemande au Bayern, je me rappelle avec des joueurs comme Philipp Lahm, Mike Müller, où parfois ça ne passait pas.
Ça passait pas, ouais.
Après, il n'a pas fait long feu au Bayern. Je pense qu'il est resté deux saisons sans plus.
Deux seulement ?
Deux ou trois, mais
maximum.
En tout cas, il a remporté la Ligue des Champions avec le Bayern.
Non, avec le Bayern,
il
n'a
pas remporté.
C'est le seul club,
non. Il a gagné que.
C'est pour ça que son passage au Bayern est un peu en dessous, si je peux dire.
Il y a la Bundesliga, c'est déjà ça. Pour le palmarès, c'est pas mal.
Il a tout gagné, pas comme un certain Kane.
Le type il se prend des balles perdues à chaque fois.
Je pense que si Kane signe dans une équipe de Guardiola,
il y a moyen, il prend un petit truc ou bien ça fait l'effet inverse.
Moi je suis content en tant que merengue qu'on n'ait pas signé Kane. Il était question qu'il arrive au Real. Au final, on a pris Rossellou, on s'est tous foutu de sa gueule. Et en attendant, doublé face au Bayern de Kane.
Quelle folie!
Il faut se pencher sur le cas Harry Kane et
en parler. Ouais.
On fera une émission spéciale sur lui complètement.
Le livre sera vide, mais faut écrire un truc.
Que des pages blanches. 100 pages, mais que des pages blanches.
C'est un page de 100 livres avec comment gagner de l'argent. Tu ouvres, première page, travail. Voilà, c'est tout. Pour rester sur le FC Barcelone, lequel a laissé un meilleur souvenir entre Pep et Luis Enrique ?
Moi, j'irais Guardiola parce que j'ai l'impression que, enfin, lorsque Guardiola quitte le Barça, il le laisse un peu au prime, si je peux dire. Genre, ouais. Il part l'année d'après, il remporte la dernière Ligue des Champions. Alors que Luis Enrique, même si la dernière année il y a eu la remontada, je trouve que l'équipe s'est un peu plus détériorée vers la fin. Alors que Guardiola, il part. On se demande même pourquoi il part alors qu'il est encore
au sommet. Quand on apprend que Guardiola part, on se dit wow, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
C'est pas
après,
à cause de tension avec l'effectif.
Il y avait plusieurs rumeurs.
Mais tu sais, ce qui se passe dans une équipe, je pense, parfois on est très loin du compte avec les médias, ce qui relève.
On est très loin du compte et il y a plein de trucs qu'on ne sait même pas s'imaginer.
Lui avait expliqué que c'était une fatigue mentale ou le travail d'entraîner.
C'est vrai qu'entraîner le FC Barcelone, c'est une pression monumentale.
Tu vas pas au Bayern de Munich alors.
Et je pense qu'il avait engrangé assez d'expérience pour entraîner le Bayern.
Bayern, il y a un peu moins de pression, je pense.
Non, mais c'est vrai, si on se rappelle bien, quand il a quitté.
Ça reste le Bayern, mais.
Quand il avait quitté le FC Barcelone, il avait dit j'ai besoin de prendre du temps pour me ressourcer.
Mais il a fait un an sans coacher.
Oui, je savais pas ça.
Ouais, il a fait un an sans coacher.
Il a pas enchaîné.
Il a pas enchaîné direct. Il a fait un an sans coacher, même il était parti aux États-Unis.
Je pense qu'on réalise pas la charge mentale. Ouais,
bien sûr, je pense qu'elle
est même au-dessus des joueurs. Un entraîneur, sa vie football, sa vie tactique, toute la journée.
Ça, on va jamais virer des joueurs. Tu sais, il suffit que tu fasses trois matchs mauvais, tu te fais niquer dans la presse et après tu as ta gueule dehors.
Mais je prends l'exemple d'un joueur. Le joueur, c'est les entraînements et le match. Mais un entraîneur, c'est toute la journée.
Avec ses équipes, son T1, son T2, son T3.
Préparer son entraînement et après l'entraînement, faire un débrief de l'entraînement, etc.
Énormément de mérite.
Mais par rapport à l'image qu'ils ont laissée, alors Guardiola, je pense, voilà. Voilà, c'est l'un des plus grands entraîneurs de ces 20 dernières années, peut-être même de l'histoire, avec des Ancelotti, des Mourinho, des Sir Alex Ferguson. Pour Luis Enrique, même s'il n'a pas la stature d'un Guardiola en termes de prestige, de palmarès, c'est quand même une certaine personnalité, une autorité rare aujourd'hui dans des effectifs de stars comme au PSG. Mais surtout, il y a une histoire personnelle qui m'a touché. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il avait une fille qui souffrait d'un cancer des os. Mmh. Il est d'ailleurs parti du FC Barcelone, il a quitté ses fonctions pour pouvoir rester auprès d'elle. Et malheureusement, quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne, elle est partie. Il s'est mis en retrait quelques mois. Il est revenu. Et ça montre quand même le mental de Luis Enrique. Un mental exceptionnel. Et je pense que ce drame familial a, d'une certaine façon, forgé sa réputation auprès des supporters du FC Barcelone qui l'apprécient. Même s'il n'est peut-être pas aussi flamboyant qu'un Pep Guardiola, je pense qu'il l'aime beaucoup, Luis Enrique.
Bien sûr.
Est-ce que vous pensez que ça a contribué justement à sa popularité, ce drame familial lui ?
Je pense que de base, il a un côté plus humain que Guardiola. Oui, bien sûr. Et du coup, ce décès de sa fille, lorsqu'on revoit les images de la victoire du Barça en 2015 et on voit sa fille célébrer avec son papa, c'est des images qui restent. Et c'est vrai que c'est...
Ouais, non, ça a touché tous les supporters du Barça et ça forge le respect de voir la manière dont il est revenu après.
Totalement.
Tu vois, et c'est très très fort parce que c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre.
Maintenant, si on reste bien évidemment dans les épopées barcelonaises pour les deux, lequel est le plus culte ?
Guardiola.
Pour moi, Guardiola. Guardiola.
Et du coup, Luis Enrique, est-ce qu'il a laissé une trace indélébile du côté du FC Barcelone ?
C'est la MSN.
La dernière. 10 ans bientôt.
Encore.
Bah pour moi, je sais pas.
Est-ce que c'est un sous Guardiola ?
Non, c'est très discriminant. Il y a un Luis Enrique, il y a un Guardiola, il y a peut-être une identité
parce que là, tantôt, on en parlait avec Malik qui disait qu'il y avait l'élève et le maître, tu vois. Donc, d'une certaine façon, dans l'inconscient collectif, Luis Enrique est l'élève de Guardiola, alors que pourtant, ils sont de la même génération.
Idéologiquement, dans leur idéologie footballistique, il y a énormément de points communs. Guardiola est dans une autre dimension, c'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire, mais Luis Enrique fait son trou, marque les esprits... à sa prestance et à quelqu'un de complètement différent que Guardiola. Donc, c'est deux grands entraîneurs, un peut-être plus grand que l'autre, mais deux entraîneurs différents.
En tout cas, on va se souvenir de ces deux-là.
Ouais, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais peut-être qu'il y a cette idée, entre guillemets, que c'est un sous-Guardiola, même si pour moi, c'est pas le cas, juste parce que Luis Enrique, il est arrivé après.
Oui, aussi, c'est comme Ronaldinho Neymar, tu vois.
Si maintenant ça avait été l'inverse, est-ce qu'on aurait dit de Guardiola, est-ce que c'est un sous-Luis Enrique, tu vois ?
Parlons un peu du présent. Alors, Luis Enrique. Il est au PSG depuis maintenant un an. Il est quand même arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions avec un effectif cohérent, moins glorieux, moins de stars. Est-ce que c'est encourageant pour l'avenir du club parisien ?
Point d'interrogation pour moi.
Encourageant, la vérité, on ne sait pas parce qu'il y a encore tout qui a changé.
Après, est-ce que c'était une bonne saison ?
Pour moi, ils ont fait une bonne saison.
Malgré les hauts et les bas, l'histoire avec Mbappé,
ils ont gagné la Coupe de France, je pense.
Ils ont fait une bonne saison, ils ont gagné le championnat, ils ont tout gagné, je pense.
Ils ont tout gagné, donc
ils ont fait une bonne saison, mais le truc, le problème avec Paris Saint-Germain, et ça a été le cas depuis que les Qataris sont arrivés, c'est qu'il y a ce manque de stabilité, ce manque de cohérence, et le fait de à chaque fois changer d'entraîneur, ça a porté problème. Il faut un projet, en fait.
Ouais, comme avec un Guardiola à City. Laisser 5 ans, 6 ans.
Pour moi, Luis Enrique, il me fait penser à Thomas Tuchel. C'est-à-dire qu'il vient, il veut imposer ses idées. Pour le moment, il y parvient. Mais je pense que tôt ou tard, les actionnaires qataris vont lui dire « Écoute, t'es gentil, mais nique ta mère. »
C'est une grave erreur.
En mode coach court terme, quoi.
Bah, je pense qu'il
peut-être
a un peu
pas.
Plus.
Il a quand même un prestige, il a quand même une notoriété, Luis Enrique.
Ouais.
Ce serait une erreur de le dégager comme ça, comme un malpropre. Je veux dire, c'est pas un Galtier, quoi. Tu vois, autant Galtier, tu peux lui marcher dessus, c'est un paillasson, ce mec. Mais tu vois, tu fais pas ça, Luis Enrique.
J'ai l'impression que les dirigeants du PSG ont, si je peux dire, ont enfin compris la leçon. Et on le voit même dans le recrutement où on a l'impression que Luis Enrique prend de plus en plus de place dans ce club.
Ouais.
Et on est curieux de voir la deuxième année sans Mbappé. Et on a l'impression que là, ça va vraiment être l'équipe de Luis Enrique.
Et plus l'équipe d'Mbappé, t'as raison.
C'est ça. Il faut pas négliger l'importance de son départ.
Non, mais c'est pour ça qu'on sait pas encore se projeter. Juste à voir, comme t'as dit, point d'interrogation. On verra bien comment ça va donner. Il y a plus de Mbappé, il y a plus de Messi, il y a plus de Neymar. Il y a plein de trucs qui ont changé.
Mais la première année était encourageante parce que dès qu'on voit
mais même niveau tactique, niveau footballistique,
il a apporté de belles choses,
ouais. Intéressant, tu vois.
Et si on avait dit que le PSG finirait en demi-finale de la Ligue des Champions,
après,
personne n'aurait cru.
Si on avait dit aussi qu'ils allaient perdre contre Dortmund, personne n'aurait cru.
Ouais.
Et maintenant, du côté de Pep Guardiola, alors il a annoncé que ce serait sûrement sa dernière saison à City. Il est quand même à la tête de Manchester City depuis 9 ans, mais il a ouvert il y a pas longtemps la porte à une prolongation. Mais si jamais c'était sa dernière saison avec les Citizens, où est-ce que vous aimeriez le voir ? Alors, si je peux démarrer, on l'a vu en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Franchement, moi, je ferais le grand chelem des championnats européens, j'irais en Italie. D'un côté, ça lui permettrait d'avoir une nouvelle expérience, de voir si son style de jeu est compatible avec la Serie A.
Mmh. Ah, surtout qu'il a joué en Serie A en tant que joueur à l'étier.
C'est vrai.
Aussi, et, il connaît ce championnat. Mmh.
Et en plus de ça, tu mets la lumière sur ce championnat qui manque cruellement de figures emblématiques donne envie de voir le championnat.
Et ça pourrait faire comme en Angleterre, ramener un autre gros entraîneur et créer une nouvelle grosse rivalité.
Après, l'Italie a des grands entraîneurs. Je pense à Antonio Conte qui est revenu à Naples, mais c'est pas suffisant pour remettre la lumière.
Conte, je pense que c'est aussi un entraîneur court terme. Regarde ce qu'il a fait à Chelsea. Il a fait un truc de fou en 2017 et puis après...
Je crois que le pire, c'était à Tottenham.
Rien.
Qui a gagné à Tottenham ?
Non, mais il avait qui ?
Harry Kane. Sinon, on en parlait en off, la sélection nationale, la Roja. Est-ce que ce serait
une top idée.
Une bonne opportunité pour Pep
Incroyable,
Guardiola.
C'est un nouveau challenge, une nouvelle conception du management une nouvelle façon aussi de gérer des équipes. Donc à voir s'il peut se lancer, je pense qu'il a tout pour gérer ça. Et en plus avec cette nouvelle épopée espagnole qui rejoint un peu l'idéologie du Barça avec un tiki-taka, une maîtrise et un monopole du ballon, ça pourrait être hyper intéressant de voir un Guardiola gérer cette ère-là.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux entraîneurs. C'est ainsi que le versus entre Pep Guardiola et Luis Enrique se conclut dans Complètement Catalan.
Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur.
Tout de suite, Génie ou escroc sur le seul et unique Gérard Piqué. Depuis quelques années, le FC Barcelone est en pleine reconstruction et voit ses figures, certes importantes, mais vieillissantes, s'en aller. Tous ceux qui ont bâti ce club et qui ont été l'âme du Barça ces 15 dernières années n'y sont plus. Messi, Neymar, Suarez, Valdés, Puyol, Dani Alves, Iniesta, Xavi, Busquets, Jordi Alba. En pleine saison 2022-2023, c'est un autre joueur iconique qui avait tiré sa révérence. Défenseur emblématique du FC Barcelone depuis 2008, il avait pris sa retraite afin d'accélérer le passage du flambeau avec la nouvelle génération. N'entrant plus dans les plans du nouveau coach de l'époque, Xavi, MDR, il a raccroché les crampons et justifié ce choix en disant qu'il a accompli son rêve, devenir un joueur du Barça. 8 Ligas, 7 Coupes du Roi, 6 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Mondiaux des clubs, une Première Ligue avec United, une League Cup, une Community Shield, 4 Ligues des Champions, l'Euro en 2012, la Coupe du Monde avec l'Espagne en 2010, Shakira, le défenseur catalan en aura soulevé des choses avec le maillot Blaugrana. Malgré sa retraite des terrains de football, l'ancien international de La Roja reste très actif et continue à faire parler de lui en étant le créateur d'une version dérivée de ce sport. Mélange entre FIFA Street, foot de rue et Galactic Football, la Kings League ne cesse de prendre de l'importance dans l'univers Twitch. Une réputation qui lui a permis d'organiser son premier mondial qui a été retransmis partout grâce à la présence de streamers les plus populaires de chaque pays. Mais en plus de ça, la Kings League a été l'occasion pour pas mal d'anciennes gloires du football de revenir sur le devant de la scène et faire davantage parler de cette e-compétition. Malgré la détestation d'une partie des supporters, un divorce polémique qui l'a fait passer pour un con sur la toile et un départ en catimini de son club de cœur, il semblerait que l'Espagnol puisse jouer un rôle important dans l'avenir du football moderne. Gérard Piqué, génie ou escroc? Je vois Berry qui me regarde avec un air « qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Vas-y, je t'en prie.
Moi, je pense que Gérard Piqué, tout le monde oublie ce qu'il a fait. Le gars, c'était un défenseur moderne, comme on en avait rarement vu.
Mais par contre, toi qui suis assidûment le club, ouais, t'es d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu une période où il y a eu un acharnement sur Gérard Piqué.
Totalement d'accord sur ça. Les gens, ils s'acharnaient sur lui, sur l'extra sportif, à un moment où, même footballistiquement, il était encore correct, tu vois, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Mais je suis d'accord qu'il aurait peut-être dû faire un pas en retrait un peu plus tôt. Ça, c'est mon avis. Mais pour moi, en tout cas...
Quelle saison, par exemple ?
La première saison...
Avant ou après Covid ?
Pendant Covid. Je pense que c'était l'année où y a Araujo qui est là, mais qui n'est pas encore titulaire. Il est encore un peu sur le banc. Ben, le 8-2, justement, ben, cette saison-là, je pense que c'était
l'année trop.
Et là, il devait... Il y en a qui se frottent les mains.
Mais Gérard Piqué, c'est un personnage très clivant. C'est pour ça qu'il fait souvent polémique et débat. Ouais, on se souvient de ses déclarations,
déclarations
sur le Real Madrid, sur le football en général. Il a ce côté très, très, très catalan et barcelonais qui peut déplaire parfois. Parce que j'avais l'impression que même dans ses plus belles années, c'était le joueur sur qui on aimait s'acharner les réseaux sociaux. Peut-être,
ouais, comme il dit bien, on a tendance à oublier ce qu'il a fait.
Bien sûr, oui.
C'était un attaquant. Il pouvait parfois se retrouver en pointe, te faire un assist, te faire une talonnade. Il était très fort sur l'homme, très bon dernier homme, très bonne dernière passe, il cassait des lignes. Donc il était très complet comme défenseur, très moderne, tu l'as très bien dit.
Mais malheureusement, il est souvent sur les photos de famille. Enfin, on voit même des images où il se retrouve à terre avec les buts de Ronaldo, c'est souvent lui qui se retrouve.
C'est souvent lui, mais bon, après, quand tu tombes contre des Ronaldo, des gens de
foot, bien sûr.
Voilà, on va dire c'est normal.
Il joue au prime du football aussi.
Il était dans le prime du Barça et il n'a pas été un jour sur le banc, tu vois.
Et il est toujours là. Il est là à la Coupe du Monde 2010, à la Coupe du Monde 2012.
Il a tout gagné. Il fait partie des rares joueurs qui a tout gagné.
Mais pourquoi il a telle mauvaise réputation alors?
Clivant.
Comme je l'ai dit, son personnage clivant.
Ouais, son personnage.
Il y a eu plein de personnages clivants dans le foot.
Ouais, mais il a tiré sur la ficelle.
Il aurait dû rendre l'écran plat. Et aussi.
À défaut de tirer sur la ficelle de Shakira.
Pas mal. Je vais bien. Non.
Au final, il y a l'effet aussi des médias actuellement en 2010. C'était pas la même chose que maintenant, tu vois.
Tu as le droit à rien laisser.
Ouais, tu peux pas.
Pister à crever.
Tu fais un truc de travers, c'est mort.
Après, c'est quelqu'un qui aime énormément son club. J'ai le souvenir de sa dernière saison avant qu'il parte en retrête, en pleine saison comme ça. J'avais pas compris. Il avait quand même accepté de baisser son salaire drastiquement pour pouvoir signer Agüero, il me semble. Je sais pas si c'était Agüero.
Oui, c'était lui. Ouais. Agüero, il faisait partie des joueurs
qui prennent sa retraite à cause d'un problème cardiaque juste après. Vraiment, bon move encore du FC Barcelone. La retraite en catimini de Gérard Piqué.
Si je dois juste prendre sa retraite ou la manière dont il a pris sa retraite. Moi, je trouve ça dommage qu'il ait arrêté en plein milieu de la saison comme ça.
Je pense que c'est son attachement au Barça qui, au final, lui aura posé problème. Parce que, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 2 ou 3 saisons où il tirait vraiment sur la corde.
Il a tiré.
Et c'est une tendance qu'on observe souvent sur les anciens joueurs. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas partir au bon moment. Que dans un club aussi compétitif que le Barça, il faut laisser sa place.
C'est à cause de Messi et Ronaldo.
On a trop banalisé
le fait que tu joues jusqu'à 37 ans. Mais les anciennes générations, à 33 ans, c'était fini. Je pense à un Zidane.
Regarde un Kroos maintenant, regarde ce qu'il fait.
Oui, bien sûr.
Oui, après, c'est des profils différents.
Il a été très malin, Kroos. Franchement, ouais. À côté, tu as un Modric, 39 ans.
Il y a des exceptions. Si on parle de lui, c'est parce qu'il y en a un. Si tous les joueurs étaient bons à 39 ans,
mais c'est rare, ils se sont réinventés.
On disgresse un peu, mais 39 ans, t'es encore dans l'effectif du Real Madrid. On te prolonge.
C'est fort.
C'est peut-être
après,
top 5
après
des plus
la politique du Real Madrid, elle est, c'est un truc que moi je trouve bien, c'est qu'ils font, je pense, une année pour les joueurs de plus de 30 ans.
Oui, c'est ça. Ouais.
Une année pour les joueurs de plus de 30 ans en fin de saison, surtout quand t'es un joueur comme Modric, comme Kroos, comme Nacho, des joueurs qui sont
une année supplémentaire et ça s'accompagne d'une baisse de salaire. Voilà. Parce que Perez, il est pas con.
Perez, il est pas bête, Et donc du coup, ça c'est fort.
Comme tu l'as dit, peut-être 2 ou 3 saisons en trop. Mais au final, c'est un joueur très important, qui était défenseur, qui était, je le suis toujours.
Moi qui suis défenseur, et pendant très très longtemps, mes références, ça a été Piqué. Piqué, il y a Compagnie, il y a Hummel, c'est à leur prime à l'époque. C'était, pour moi,
Est-ce que c'est le défenseur le plus emblématique du FC Barcelone de ces 10-15 dernières années à côté des Dani Alves, des Puyol.
Non,
10-15 dernières années.
Enfin, si on parle d'un peu avant, il y a
Raphaël
Puyol,
Marquez,
t'avais Puyol, Dani Alves,
Jordi Alba. Raphaël Marquez, c'est encore avant.
Mais il était encore au début de l'ère Guardiola, de l'ère Pep Guardiola, il était encore là.
Il y a les Puyol aussi, tu vois.
Ouais.
Puyol,
pour moi, Puyol, c'est la légende du FC Barcelone.
En plus, Puyol, on peut le mettre un peu à la même catégorie qu'un certain Maldini. Où le gars, tu le vois défenseur central, tu le vois défenseur droit, tu le vois défenseur gauche, et partout, il preste.
Ouais.
Tu vois, toujours aussi c'est quoi ça c'est
Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu faire un génie ou escroc sur Gérard Piqué, c'est surtout parce qu'il est à l'origine de la Kings League, qui est une compétition d'e-sport qu'il a lancée il y a quelques années et qui a vraiment une certaine réputation. Ça marche énormément sur Twitch. Il a même organisé une Coupe du Monde de la Kings League. On a pu voir des Totti, des Del Piero, des Nasri et des Nazar. Qu'est-ce que vous pensez de la Kings League, de manière générale ?
Moi, j'adore. Moi, je fais partie de l'ère moderne. J'aime bien qu'on se réinvente. Ça me fait kiffer, moi.
Est-ce que tu fais partie de ces gens qui disent que l'e-sport va nuire
pas
au
du
vrai
tout.
Sport
c'est, on a la chance de pouvoir revoir des anciens joueurs remettre les crampons. Le football, ça n'a rien à voir avec le monde professionnel. Mais tu peux aussi mettre en lumière des gens qui sont des professionnels, par exemple, du mini-foot, qui vont venir prester ici. Tu vas dire, il a quelque chose, lui. Des gens qui sont issus de quartiers populaires, qui jouent à la Gora. Tu fais, c'est dommage, lui, il pue le football, pourquoi est-ce qu'il n'a pas percé, tu vois.
Et du coup, est-ce que Gérard Piqué ne serait pas plus un génie pour ce qu'il a lancé en tant qu'entrepreneur avec la Kings League qu'en tant que joueur ?
Non.
Après, on sait que c'est un énorme homme d'affaires. Il a aussi touché un peu au tennis en investissant dans l'ancienne Coupe Davis. Mais oui, c'est un personnage très clivant. Et pour faire le parallèle avec la Kings League, je pense que c'est pas incompatible avec le vrai football, quoi. Je me souviens que je pouvais regarder prendre du plaisir en regardant la Kings League et juste après mater un match de football normal.
Est-ce que la Kings League peut influencer le football en termes de changement de règles?
Je vais pas vous mentir, mais je connais pas les règles, je connais rien.
C'est simple. Tu vas regarder quelques épisodes de Galactic Football et c'est bon, tu as la Kings
c'est
League.
C'est la même chose.
Je te jure que c'est ça, c'est absolument.
Je te jure que. J'ai essayé de regarder.
Moi, franchement, je suis comme Makelele, je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Exactement.
Non, c'est vraiment du divertissement, mais je pense que ça remplacera jamais le foot.
Non, ça va pas remplacer.
Du coup, pour conclure sur Gérard Piqué, est-ce qu'il est culte ? Est-ce que c'est un joueur incontournable quand on va parler du Barça ?
Bien sûr.
C'est une légende.
Franchement, moi, j'ai des doutes.
Le Barça et l'Espagne.
Peut-être une légende. Peut-être pas une légende du foot, mais en tout cas, une légende du Barça, sûr.
Pour moi, c'est une icône du foot, Gérard Piqué, parce qu'on a quand même grandi avec lui. Mais de là à dire que c'est une légende de ce sport, à son poste, il y a quand même eu plus important. Déjà au Barça, pour moi, Puyol, il est au-dessus. Même Dani Alves a eu plus d'importance, je trouve.
Il fait partie des 15 meilleurs défenseurs de l'histoire. Tu peux le mettre
pour moi,
dedans,
ça reste une légende du Barça, ça c'est sûr et certain. Oui. Et du foot aussi. Le gars, il a gagné la Coupe du Monde. C'est pas tout le monde qui
l'Euro.
Gagne
l'Euro.
Monde.
Coupe du
gagne
monde.
L'Euro.
En étant un joueur très important.
Voilà.
Il est toujours titulaire. Il a vraiment sa place dans.
Non, il a sa place dans le Panthéon.
Bien sûr.
En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce défenseur espagnol à l'origine de la Kings League. C'est ainsi que la rubrique Génie ou escroc se conclut dans Complètement Catalan.
C'est pour le Brésilien, le tir brossé de Neymar, ça file devant la ligne de Sergio Rico.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait piquer?
Incroyable. Non mais est-ce qu'il fait piquer? Il faut qu'il se jette, il faut la souffler, même avec un coup de soufflage. Mais oui, il va rouler. Je pense qu'il a voulu pas là. Il doit s'arracher.
Mais bien sûr, mais
j'en sais plus. Avec normalement, incroyable. Regardez, il ne rentre pas. Non.
C'est dingue. Maman, il parcourt toute la ligne de but.
Même Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout la carrosserie. Je sais pas. Regardez, il est en observateur.
Ah, Shakira, elle y va, elle aussi.
Non, mais je ne sais pas comment on peut.
Et on termine cette émission spéciale avec le débat de la semaine. « 2020 est une année que les Barcelonais aimeraient oublier. » Déjà, faut-il rappeler le 8-2 concédé face au FC Bayern Munich lors de la Ligue des Champions. Hein, Berry, tu te rappelles
non,
de cette période?
Non, je me rappelle pas de ça.
C'est peut-être dans le multivers de Marvel.
Peut-être que
cette saison très difficile a marqué le début d'une période très compliquée pour le FC Barcelone. C'est également à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que la situation du club était désastreuse sous l'ère du président Josep Bartomeu. Et bah, c'est l'occasion de revenir sur les dernières saisons du FC Barcelone avec vous qui êtes très fan de cette institution. Qu'est-ce que vous pensez du club actuellement, tant sur le plan sportif que structurel? Berry.
Bah, pour moi, Barça, ça reste toujours un club légendaire et ça restera un club légendaire. Là, on a un président comme Laporta qui, qu'on le veuille ou non, essaye de remonter la pente, parfois peut-être pas de la meilleure des manières, mais faut pas oublier ce que le président précédent, Bartomeu, là, le fou, là, il a laissé comme crasse un peu derrière. Et comme,
mais elle est due à quoi cette situation financière désastreuse? Est-ce que c'est en lien avec les nombreux transferts très réussis?
Ouais, c'est une transition totalement ratée. L'après Neymar, l'après MSN, On a voulu recruter Dembélé et Coutinho à des prix exorbitants. C'est des transferts que le Barça n'avait jamais fait à l'époque. Ouais. Et la gestion totalement ratée. Que ce soit au niveau des coachs, les salaires qu'on a donnés à des joueurs.
En fait, c'est surtout ça. Parce que c'est ça le problème là maintenant. Ouais, c'est la masse salariale. Hein.
Exactement.
Bien sûr, l'argent qu'ils ont. Bien sûr.
Et des restrictions en Liga qui sont un peu plus renforcées.
Ils ont dû jouer donc, avec beaucoup de joueurs de la Masia également pour lutter contre cette difficulté salariale. Quoi.
Est-ce que le départ de Messi lors de la saison 2020-2021 a accentué la chute du Barça?
Bah oui, bien sûr.
Ah oui. Surtout que c'était pas préparé. C'était.
Avec Bartomeu qui était encore dans l'équation, lui il avait qu'une seule envie, il me semble, c'était de se barrer. C'était la première fois que l'idée lui avait traversé l'esprit à Messi.
Que Messi parte. Oui. Enfin, que Messi voulait partir.
Ouais. Et une fois que Laporta avait pris la place de Bartomeu, l'idée d'une prolongation et de rester au Barça était même actée. Mais il y a eu un retournement de situation. Il semblerait que le fair play financier avait pas validé la prolongation de Lionel Messi.
Ouais, c'est ça.
Et ça a créé cette conférence de presse avec un Lionel Messi en pleurs qui n'avait qu'une seule envie, c'était de rester. Et ouais, pour les fans, à mon avis, ça devait être. Mais même moi qui suis pas un Barcelonais, j'avoue que ça fait un coup, quoi.
Ah oui, parce que Messi, c'est le Barça. C'est, ouais. Voilà, donc après, bien sûr, que quand tu as construit.
Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, malgré tout, de rester? Je veux dire, il a déjà engendré et engrangé des millions d'euros. Moi, je suis sûr que tu fais comme à Dani Alves. Il est resté au club, il a signé pour 10 000 euros par mois. Je pense que tu pouvais le faire, quoi. Si tu avais vraiment envie de rester, je pense que Messi serait resté.
Ils avaient essayé de trouver les meilleures solutions possibles, mais c'était impossible.
Il avait déjà coupé quand même son salaire en deux, hein, Messi. À un certain moment, il avait coupé son salaire en deux. Il faut quand même le faire.
Il y a plein de trucs, etc.
Mais c'était plein de règles qui rendaient le truc impossible. Enfin, tu faisais référence à Dani Alves, mais j'avais vu que pour un joueur du statut de Léo Messi, c'était impossible de donner ce salaire.
Il y a certaines règles qu'on ne connaît pas trop.
C'est compliqué.
Ça a l'air très compliqué, les règles.
Moi, après, pour 10 000 euros par mois et même être sur le banc toute ma vie, je signe.
Moi, clairement, je signe.
Après le départ de Coman en 2020-2021, il a été le coach du FC Barcelone pendant une saison. Ça n'a pas été exceptionnel, d'autant plus que c'est l'Atlético de Madrid qui remporte la Liga cette saison.
Ouais.
Avec un Luis Suarez en larmes sur le terrain en mode « ils ont voulu me baiser, bah voilà, moi je les baise en retour ». En gros, c'était un peu ça. Alors, pour remplacer Coman, le club a nommé la légende du club Xavi en tant qu'entraîneur. Qu'avez-vous pensé de lui en tant que coach?
Je trouve qu'on a beaucoup tapé dessus. Tu sais, c'est quelqu'un qui débutait. Bon, il était en Chine avant, je sais pas où. Donc voilà.
Qatar, mais il était en tant que joueur. C'était sa première expérience en tant qu'entraîneur.
On l'a plongé dans une situation catastrophique au FC Barcelone. Ouais. On lui a dit, tiens, fais quelque chose. Ouais. Je trouve qu'il a eu des moments où il a quand même su redresser cette équipe. Il a même un certain charisme. Voilà, Xavi, il fait partie des plus grands milieux de l'histoire. Il est respecté partout dans le monde et surtout au Barça. Donc moi, je trouve que honnêtement, on lui tape beaucoup dessus. Voilà, quand tu sais, c'est comme un Zidane, il arrive au Real de Madrid en 2007, ils en ont gagné 3, mais ils avaient la BBC, ils avaient Ronaldo Prime.
tu mets maintenant Zinedine Zidane avec cette situation au Barça, est-ce qu'il va faire mieux que Xavi?
Bah après, il y avait quand même de bons joueurs au FC Barcelone.
Ouais, mais bon, c'était le club. C'était voilà.
Tu m'en parles comme si c'était Guingamp.
Non, mais le club était en train de mourir. Enfin, il dépérissait. C'était vraiment compliqué. Donc.
Et que tu le veuilles ou non, quand ça va pas, quand ça va pas, ça se replace.
Oui, ça c'est sûr. Mais tous les clubs ont connu. Bah, on voit Chelsea en ce moment. Ça commence à peine à se redresser. Manchester United, c'est un peu compliqué aussi. Tous les grands clubs ont une période sombre, sauf le Real Madrid.
Je pense que vraiment le problème de Xavi, c'est qu'il est arrivé au pire moment de l'histoire du club, je pense.
En fait, ils se sont dit, en prenant un joueur qui connaît l'institution, qui est respecté, peut-être que ça allait permettre un nouveau souffle.
Bah, ils ont voulu refaire une sorte de Guardiola bis, avec un mec qui connaît parfaitement le club. On s'est dit qu'il était capable de sortir le club de...
C'est pas Guardiola.
Mais il n'y a pas que du mauvais. Il a été champion pour sa deuxième saison il y a deux ans.
Il y a eu des très très bonnes choses. Il fait une très belle saison. Quand tu regardes la victoire contre le Real Madrid, le 4-0 là, je pense, 4-0.
Oui, avec Aubameyang.
Allez, t'as Aubameyang en pointe, je suis désolé. Ce que je veux dire, voilà.
Non, mais quand tu regardes, mais
Guardiola, ça revenait au même.
Avec cette équipe-là, ou si c'était Koeman.
Oui, avec Luc de Jong,
t'avais des Akomash, Jude Gla, on avait des joueurs comme ça à un moment au Barça. Je sais plus si c'est Xavi. Non, je pense pas que c'est Xavi qui avait.
Alors, malgré l'annonce de son maintien la saison prochaine, Laporta a décidé de se séparer de Xavi après un feuilleton en mode « Non, mais je pars. Bon, finalement, ils m'ont convaincu de rester. Non, finalement, tu co-wed, allez, tu dégages. » Et ben, pour le remplacer, le président a nommé Hansi Flick, ancien sélectionneur de la Mannschaft et coach du Bayern, qui était à l'origine du fameux 8-2 en Ligue des Champions.
Mais il va le redire combien de fois, en fait ?
Autant de fois qu'il le faut. Il a signé un contrat de 3 saisons. Est-ce un bon choix, Hansi Flick, au FC Barcelone ?
Oui, ouais, je pense que c'est un entraîneur qui a déjà fait ses marques, qui a déjà fait ses preuves. Il connaît aujourd'hui le football moderne, il sait sûrement redresser une équipe et il sait gérer un vestiaire. Donc après, écoute, c'est pas Guardiola non plus. Est-ce que son idéologie de football va coller avec l'idéologie et l'institution du Barça ? C'est un point d'interrogation, mais...
Ah, peut-être qu'il va nous faire l'inverse d'un Guardiola, prendre le système allemand pour l'imposer en Espagne.
C'est surtout cette mentalité qui va apporter la mentalité allemande, cette rigueur tactique.
On voyait déjà des montages en mode Lamine Yamal sous Xavi, Lamine Yamal scientifique, en mode bodybuildé à mort sec.
J'ai vu faire des tractions là récemment.
Je pense qu'en fait, Laporta a vu une opportunité qui ne pouvait pas la laisser filer. Il a vu Hansi Flick libre, il s'est dit... Faut que je le prenne, sinon...
Déjà, je pense qu'ils ont un peu pas respecté Xavi.
Oui, ça, c'est vrai.
Parce que déjà, je pense que ça part de ça. À partir du moment où le gars, il dit qu'il veut partir, et toi, t'es là, tu fais tout pour le convaincre de rester, etc. En plus, avant ça, ça se passait très bien au niveau des résultats. Une fois qu'il a confirmé qu'il restait, ça allait un peu moins bien. Et là, tu le mets dehors pour prendre Hansi Flick. Moi, Hansi Flick, malgré qu'il ait gagné la Ligue des Champions avec un Bayern qui était en mode rouleau compresseur, j'attends quand même quelque chose de...
Tu voyais qui, toi, pour succéder à Xavi?
La vérité...
Ou alors tu continues avec Xavi?
Pour moi, je continue avec Xavi et je lui ai laissé minimum une année de plus. Et après ça, c'est vrai que ça allait être compliqué.
En parlant de Hansi Flick, il y a aussi son passage raté avec l'équipe nationale qui fait débat. On a vu qu'il entraînait une autre équipe que le Bayern, ça n'allait pas, mais
après,
il y a un échec.
Après, avec la Mannschaft, il n'a pas eu l'occasion non plus, il n'a pas eu le temps d'imposer son style de jeu. Oui. Au bout de 4-5 matchs, ils l'ont quand même licencié.
Mais il y a ce gros échec à la Coupe du Monde 2022. Mais c'est vrai, je peux comprendre les réticences de Berry.
Pour moi, c'est encore un point d'interrogation. Après, j'attends de voir. Je pense que physiquement, ils vont être là.
Oui, c'est souvent ce qui a manqué au Barça ces dernières années, où lorsque les rencontres les plus importantes arrivaient, on se retrouvait avec les joueurs blessés.
Blessés ou bien en fin de match, on sent qu'on est cuit, des trucs comme ça.
C'est vraiment sur cette mentalité qui peut vraiment apporter quelque chose de positif à une équipe qui manque de caractère. Parfois, on l'a vu dans des rencontres très importantes.
J'attends de voir.
Malgré les difficultés financières du club ne pouvant pas réaliser un mercato idéal, est-ce que Hansi Flick peut relancer le Barça au sommet ?
Voilà, comme l'a dit Malik, c'est une mentalité allemande, c'est peut-être ça qu'on a besoin, peut-être aujourd'hui plus de caractère que de talent.
Mais est-ce que ce n'est pas les difficultés financières qui plombent un peu l'ambition du FC Barcelone ?
Quand tu joues avec des jeunes joueurs comme Lamine Yamal qui est en train d'exploser, aujourd'hui on ne demande pas de sécurité financière, tu sais, c'est un jeune, tu peux payer quelques millions d'euros, surtout avec l'euro qu'il a fait, mais tu peux construire une base footballistique, une équipe autour de jeunes joueurs, donc aujourd'hui je pense que le principal ennemi du FC Barcelone, c'est le caractère, la motivation, peut-être aussi le mental, où ils ont subi plusieurs défaites
renouer avec la victoire en Ligue des Champions, refaire en tout cas une épopée en LDC, peut-être pas la gagner.
Ouais, mais les finances aussi, ça joue. Par exemple, on sait que la masse salariale est très élevée. Si ils doivent mettre les comptes à l'équilibre, peut-être se séparer de 2-3 joueurs avec un salaire très haut.
Ils sont en train d'équilibrer, là, ils essayent, entre guillemets. Mais je pense que là, maintenant, les plus gros salaires, c'est Lewandowski et De Jong. Mais là, le coach, il a dit, après même les joueurs eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas partir. Tu vois.
Évidemment, avec un salaire aussi haut, ouais, qui voudrait partir?
Après, quand tu regardes plus loin, si tu prends juste la situation d'un De Jong, le gars, il vient d'avoir un enfant, qui veut bouger,
ouais, bien sûr.
Tu vois, quand t'as un enfant, etc. Tu vois.
Pour conclure un peu ce débat, on l'a déjà dit, ce qui a plombé le club, c'est la situation financière et la gestion catastrophique de Bartomeu. La raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts qui n'ont pas été concluants, beaucoup de centaines de millions d'euros qui ont été dépensés pour des joueurs qui n'ont pas fait leur preuve. Et on va revenir sur tous ces joueurs. Alors, j'ai un mélange de l'époque Bartomeu et on va revenir également sur quelques cas isolés. Qu'est-ce que vous avez pensé du transfert en 2006, vraiment figure d'Arsenal, transféré pour une soixantaine de millions d'euros, Thierry Henry. Thierry Henry au FC Barcelone.
Bon.
Top.
Sur toute la durée ?
Bon, pas top. Ouais. Bon.
Très bien.
C'était pas le meilleur des meilleurs, mais top.
Arrivé pour 41 millions d'euros en 2018 de Bordeaux, Malcolm.
Un gros flop.
J'ai oublié.
Les premiers millions gaspillés pour rien.
C'était un super joueur à Bordeaux. Il avait fait moi qui suis un peu la Ligue 1. Ça avait été il avait fait une saison fantastique. Mais surtout aussi la gestion avec l'entraîneur Valverde ne l'avait pas mis dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'au final.
C'était un bon coach.
Oui, il a fait de belles chances. Mais on sait que Malcolm était rentré pendant un Classico. Il avait marqué. Et lorsqu'on voit le match d'après, il ne le fait pas jouer. Il y avait une gestion un peu douteuse de l'entraîneur. Mais oui, en général, un gros flop.
Arrivé de Benfica pour 30 millions d'euros. Semedo.
Flop aussi.
Flop, parce que moi, je le trouvais très talentueux, ce bac. Hein.
Oui, il avait vraiment quelque chose.
Il était censé remplacer Dani Alves.
Oui, ouais, voilà, il y a cette malédiction au club. Depuis Dani Alves, on n'arrive pas à retrouver un bon
genre. Mais je pense qu'il y a eu un manque de confiance aussi sur Semedo. Après, si je me rappelle bien, la première grosse défaite où il a souffert, c'est contre la S-Rom. Et il est fautif. Ouais. Et ça a joué sur le mental
aussi, bien sûr.
Le début des problèmes, 2020, pour 60 millions d'euros, du côté de la Juve, Pjanic.
Mauvaise gestion aussi.
Très mauvaise
gestion. Il a fait des bons matchs, mais il n'était pas là quand il devait être là. Quoi.
Enfin, pour dire la vérité, j'avais oublié qu'il avait joué au Barça.
Ouais, non, mais il a très mauvaise gestion. Très mauvaise gestion.
Là, c'était durant les années 2000, sous l'ère Guardiola. Il voulait se débarrasser de Samuel Eto'o. Il a été donné à l'Inter en plus de 69,5 millions d'euros. Zlatan Ibrahimovic, en échange, débarque du côté du FC Barcelone.
Trop jeune pour voir, mais un peu un flop aussi, parce qu'il n'a pas atteint ce qu'il devait atteindre. Quoi. Mais trop jeune.
Et surtout dans la compatibilité avec Guardiola, ça n'allait pas du tout.
Ouais,
c'est vraiment...
c'est ça. C'est dans le vestiaire. T'as enlevé un Eto'o avec qui tu t'embrouillais pour prendre Ibrahimovic avec qui tu t'embrouilles encore plus.
Et c'est à ce moment-là que Bartomeu a pété les plombs, puisque 120 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
J'avais même oublié celui-là, je te jure. Tu sais, je ne m'attendais pas à lui, je continue Atlético Madrid.
Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on l'a vraiment remplacé pour un joueur qui était complètement différent que lui. C'était pour remplacer pour avoir la place d'un Neymar, alors que c'est deux profils, mais complètement différents. On a été le mettre flanc gauche, ça vraiment, ça, c'est pour le défendre, on a été le foutre flanc gauche. Il a fait quelques bons matchs, mais mon Dieu, c'est pas.
Il est rapidement retourné du côté de l'Atlético.
Il a juste titre, il a bien fait.
Pour remplacer le fameux Neymar, Barcelone a déboursé 120 millions pour Philippe Coutinho en provenance de Liverpool.
Flop
de ouf.
Flop, même s'il faut se rappeler que lorsque Coutinho arrive, c'était vraiment un super joueur à Liverpool.
On attendait
énormément. Mais c'est surtout peut-être dans le profil recherché où c'était un joueur qui avait plus l'habitude de jouer au milieu 8-10, alors qu'on recherchait un ailier. Mais
il aurait pu vraiment être compatible avec le Barça, lui.
Il avait d'énormes qualités. Et alors, je me souviens que lorsqu'il part de Liverpool, les supporters sont dépités.
Imagine s'il était resté avec un Salah et tout ça, un Firmino, ça aurait donné. C'était chaotique.
Mais il en reste encore 3. Aubameyang.
Bon ?
Ah oui, très bon.
Surpris même.
De très bons souvenirs d'Aubameyang.
Je suis bien content qu'il soit passé par le Barça, la vérité.
Ouais, il a laissé de bons souvenirs.
Ouais,
dommage, il est resté 6 mois, je pense. Hein.
Ouais, 6 mois.
Il signe à Chelsea.
Avant de partir à Chelsea. Oui.
Il marque dans un classico aussi, si je dis pas de bêtises. Vraiment.
Moi, ce que je retiens d'Aubameyang, de son épopée à Chelsea, c'est la promotion pour le match Arsenal-Chelsea. Genre, Arsenal, nothing personal. I'm back, I'm blue. Ils se prennent une branlée par les Gunners. C'est un truc de fou. Recruté pour 105 millions, Ousmane Dembélé.
Flop de zinzin. En 6 saisons, il a mis autant de buts que Neymar en une saison.
C'est
scandaleux.
C'est surtout, j'ai jamais été fan du joueur, donc...
Je l'aimais trop, je suis pas si gaucher ou droitier, c'était fort.
C'est un joueur, je pense, qui n'avait pas les épaules pour jouer dans une équipe comme...
Et du côté du PSG, ça donne quoi pour vous, Ousmane Dembélé?
Très moyen, moi j'ai...
Est-ce que c'est mieux qu'au Barça?
Non.
Toujours pas.
Non, en fait, non. Il est bon, mais il garde toujours le même symptôme.
Il a vraiment un plafond. Le gars, il a
27 ans, je pense. Ouais. Et on dirait qu'il...
Il joue comme un gamin.
On le considère comme si c'était un enfant. Vas-y, on va attendre l'année prochaine.
Il est plus fort pour se créer des mèmes que des occasions de but, lui. Et enfin, et pas des moindres, il a fait débat lors de son arrivée en 2022, Robert Lewandowski. En provenance du Bayern Munich.
Après, il n'est pas dans les meilleures circonstances, mais il faut qu'il lâche les
crampons. J'en parle parce que apparemment le club souhaiterait s'en débarrasser, mais Lewandowski ne veut pas partir. Et maintenant qu'il y a Hansi Flick a connu Lewandowski au Bayern, il veut vraiment en faire une pièce maîtresse. Mais est-ce que tu peux miser sur un joueur qui va sur ses 35-36 ans?
En plus, tu vois qu'il devient vraiment limité, il tire sur la corde. Et de toute façon, tu ne crées pas une équipe sur quelqu'un qui est en fin de carrière. Qu'est-ce que ça va donner? Imagine, même si ça fonctionne, dans 2 ans, il s'arrête. Ça veut dire que tu dois à nouveau reconstruire une équipe.
En fait, c'est ça,
le problème. Tu vois, tu dois à nouveau avoir une nouvelle gestion, relancer un nouveau projet.
Ouais. Non, mais quand tu regardes un peu avec son expérience, avec l'expérience qu'il a, malheureusement, en Barça, ils n'ont pas d'argent.
Donc, c'est des mercatos d'opportunités à chaque fois.
Avec lui, si on avait l'argent, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais soit gardé et tu aurais pris un jeune joueur genre. Julen Alvarez, Gabriel Jesus, pour un joueur du même poste, où voilà, tu sais que après ça, ce sera lui. Là maintenant, ils sont en train de faire n'importe quoi.
C'est peut-être ça l'erreur de la nouvelle ère au Barça, c'est d'acheter des stars plutôt que d'en créer. Ils se disent que vu que la situation du club est tellement compliquée, qu'il leur faut une tête d'affiche pour vendre des maillots, des abonnements, attirer les gens au Camp Nou. C'est peut-être ça la stratégie du FC Barcelone aujourd'hui.
Ils sont aussi dans une urgence sportive. Il faut miser sur un jeune joueur, c'est compliqué.
Moi, ça me fait mal au cœur de voir un club comme le FC Barcelone réduit à appeler son stade maintenant le Spotify Camp Nou. Ouais. Enfin, je verrais pas moi le Real Madrid de faire ça.
Enfin, le fait d'avoir le nom d'un sponsor dans le stade, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent parce que c'est le Barça, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de stades.
L'Allianz Arena pour le Bayern.
Barça, on connaît leur situation et on sait très bien qu'ils ont fait ça par dépit, entre guillemets. Ben, c'est ça le problème.
Pour conclure cette émission spéciale, que souhaiteriez-vous voir au FC Barcelone dans les années à venir? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place pour qu'il y ait un nouvel élan, une nouvelle génération dorée?
Déjà donner confiance au projet, donc pas s'arrêter après 2-3 ans, essayer avec Hansi Flick sur la durée, essayer de garder les pépites qu'on a comme des Lamine Yamal, construire même peut-être un projet avec lui, autour de lui, que ce soit le nouveau leader de l'équipe.
Je pense qu'après l'Euro qu'il vient de faire, ça va être l'objectif.
Et donc renouer aussi avec la victoire, des petites victoires, j'ai une Coupe du Roi qui regagne, tu vois, tout doucement, et après toujours un peu plus se creuser en Ligue des Champions pour atteindre une nouvelle épopée, quoi.
Ah, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Barça est en construction. C'est un club qui doit se reconstruire. Et ça, c'est mon objectif. C'est mon souhait, c'est de pérenniser le centre de formation, continuer à miser sur des joueurs. On sait qu'il y a de la qualité chez les jeunes dès le plus jeune âge. S'appuyer sur des joueurs d'expérience comme Lewandowski, même s'il est plutôt sur la fin, mélanger à ces jeunes joueurs et on espère un futur plus joyeux.
Et toi, Berry, on conclut avec toi.
Pour moi, comme Maxime l'a dit, je pense qu'il faut viser aussi une certaine stabilité, un certain équilibre dans l'équipe. Essayer de voir maintenant si on a pris le risque de prendre un certain Flick. Si ça ne marche pas cette année, attendre l'année prochaine, etc. Et continuer à lui donner les clés. Et sinon, il y a aussi des joueurs comme Lamine Yamal. Il y a aussi des jeunes joueurs comme Marc Bernal. Il y a aussi Casado, tout ça.
Non, la qualité, elle est là. Ça reste le meilleur centre de formation du monde. Il ne faut pas s'en priver.
Se baser sur ça pour continuer pour arriver à un objectif de... J'espère Ligue des Champions avant les 10 ans, parce que c'est proche, quoi.
De toute façon, moi, en tant que Meringuais, je ne vais pas me plaindre de votre situation. Oh, hein, déjà de 1.
En tant que supporter Meringuais, je me suis régalé.
Franchement, ça fait une saison ou deux, le Barça, c'est vraiment le cadet de nos soucis.
On ne te fait pas un peu de peine, non même.
Non, mais si, moi, je suis sûr.
Bah, si.
Parce qu'ils sont là, ils sont seuls.
Et ils ont besoin de cette concurrence.
Tu sais
que moi, ça me manque d'avoir de la tension et de la rivalité. Vraiment, avoir le cœur qui bat à 1000 pendant un classico.
T'attendais, où il y avait même des thrillers avant, comme si c'était un film.
Mais c'était dingue.
Des petits thrillers d'une minute, qui voyaient les deux meilleurs joueurs du monde, les deux meilleurs entraîneurs du monde. C'était incroyable.
Le prime du foot.
En espérant que cette époque revienne, c'est ainsi que cette émission spéciale s'achève. Thank you very much for coming out this evening. Thank you. You're fuck too kind. Complètement catalan, c'est terminé, c'était complètement bien. J'espère que cette émission spéciale autour du FC Barcelone vous aura plu. Maxime, Malik, Berry, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi, famille.
J'espère que ça vous a plu. Et Berry, ça m'a fait grave plaisir de te revoir. Et
moi aussi, de ouf.
T'es la bienvenue quand tu veux ici pour parler football.
La bienvenue, super. Voilà.
Non, j'en vais, je ne sais pas.
La bienvenue. De toute façon, depuis que j'ai vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, allez, on va arrêter là. De toute façon, partez du principe que chaque émission est la dernière. Donc sur ce, à ciao. Bonsoir et à la Madrid.
Oh là là, quel fun.
Bon, mala idea, eh? Andrés Iniesta, el jugador menys jugador. No com a jugador de futbol.
Més màrqueting.
Menys màrqueting que jugador del món. Del món, no d'aquest equip, del món. És el millor jugador, un dels millors del món.
Gracias, segur. Gracias. Bueno, en primer lugar, me alegro mucho, Ocho, de que hayáis disfrutado tanto con el equipo. Y nos vemos el jueves con la Champions aquí. Vizca el Barça, Vizca Cataluña y Vizca Fuentealbilla.
En la vida, tanta gente ha aplaudido al nombre de Fuentealbilla como hoy.